Avoir 20 ans, caresser le temps, jouer de la vie comme on joue de l'amour, dit la chanson. Avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quelle richesse. Vieille chanson quand on a 20 ans à Gaza, Goma, Port-Soudan ou Kiev.
Pascal Paradou.
Avoir 20 ans à Moscou le 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, nommée Opération Militaire Spéciale. Avoir 20 ans, être dans la plus grande école de théâtre de la capitale russe, mais être ukrainien. Et la vie bascule, c'est le point de départ du spectacle de Victor Kirillov. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Premier spectacle en France et en français, hautement autobiographique. Bonjour Victor Kirillov.
Bonjour Pascal.
Ce jour-là, ou ces jours-là, en février 22, vous deviez jouer la mouette de Tchekhov, en russe.
Oui, exactement. C'était, j'étais censé de jouer la mouette de Tchekhov, mon spectacle de diplôme dans mon école de théâtre qui s'appelle Gitis. Mais le 25 février, le deuxième jour après, enfin, le lendemain après le déclenchement de la guerre, sauf que le 24 a tout changé.
Mais vous avez quand même joué.
Oui, j'ai joué, je suis resté en Russie pendant 7 jours après, et en 8e jour, je suis parti.
Quel est l'enseignement du théâtre dans cette école? Parce qu'il y a une école de théâtre russe, oui. On pense bien sûr à Stanislavski, qui ouais. est le nom magique pour toute personne qui fait du théâtre ou qui aime le théâtre.
Oui, bah, cette école elle est très solide, j'ai envie de vous dire. Je crois que... S'il y a un endroit sur cette planète où on peut apprendre le théâtre psychologique, la méthode d'acteur, Moscou est un lieu, malgré tout, Moscou c'est un lieu où on peut vraiment plonger dans cette culture théâtrale de théâtre russe, de la tradition de Stanislavski.
Comment résumer la méthode de Stanislavski? On reste quelques secondes là-dessus. Il y a eu un spectacle récent au théâtre de la Cartoucherie à Vincennes, chez Ariane Mouchkine.
Ouais.
Et les comédiens qui jouaient justement les rôles de Stanislavski disaient c'est la vie.
Oui.
C'est vivre.
Ouais. Peu importe ton origine, ta langue ou ce que tu fais, le théâtre, c'est tout le temps. Le théâtre, on vient au théâtre pour voir l'action. Les acteurs. Ils agissent au théâtre. Et l'importance de la méthode de Stanislavski, c'est de rencontrer les textes, le comprendre, le déchiqueter et de trouver l'action là-dedans.
Donc vous êtes dans cette grande école, un peu le roi du monde, hein, enfin, c'est l'école la plus prestigieuse. Et puis le 24 février, invasion de votre pays, l'Ukraine, et un coup de fil de votre mère qui vous annonce que ça a commencé.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous dites dans le spectacle que votre vie à cet instant est devenue absurde.
Ouais, ouais, exactement. Bah déjà, ce que j'ai ressenti, c'est un peu tout ce qu'on a ressenti comme les Ukrainiens. Les premiers instants de la guerre, c'est un choc total, c'est un bouleversement. On n'a pas inventé des mots pour décrire ce genre de sentiments. Et l'absurdité, c'était cette histoire, ce que moi... Je crois que j'ai traversé tout ce que mes compatriotes ont traversé, mais en étant à Moscou. Ce qui est inexplicable, c'est que ma famille, enfin tous mes amis, tous mes proches qui étaient à Odessa, ont entendu et ils ont vécu ça comme un pays, comme une société. Moi, j'étais dans une société opposée, dans un autre camp. C'était assez absurde, assez fou comme une expérience.
Et très vite, donc, vous décidez de rentrer en Ukraine. C'est une décision ou vraiment ça s'imposait? Il fallait partir?
Je me suis dit que je vais rentrer. Je veux vivre ce moment avec ma maison, avec les miens, avec ma famille, avec mes amis. Et donc, quand ça est arrivé, j'ai ressenti, pour la première fois de ma vie, les sentiments patriotiques, on va dire. la haine envers les occupants. Et pour la première fois, j'avais clairement l'image de qui suis-je dans cette situation. Je suis ukrainien, même parce que juste avant, je me posais plein de questions qui je suis vraiment. Et là, j'ai décidé très vite que je suis ukrainien, c'est chez moi, je rentre. Et
vous décidez ça, et là ouais. Encore coup de fil de votre mère. Décidément, les mères, ça compte quand on a 20 ans ou quelques.
Ouais.
Et votre mère dit « Niet, tu ne rentres pas ».
Oui, elle dit « Niet, pas Niet
». Bon, pardon de ne pas être tout à fait.
Enfin, bref. Non, mais oui, ma... Je ne sais pas comment on peut expliquer à sa mère à 20 ans pour qu'elle soit d'accord avec toi. Comment on peut l'expliquer à ta mère, maman, je veux rentrer et faire la guerre parce que je me sens comme ça. Et qu'elle soit d'accord avec ta décision. Et ma mère, elle l'a pris, elle l'a mal pris, forcément. Et c'était un grand conflit familial. Après tous les arguments, toutes les discussions, elle m'a dit à la fin, bon, si tu veux rentrer, tu rentres. Mais tu oublies que tu as ta famille. Tu oublies que tu as une famille. Et voilà.
Et donc, vous décidez de ne pas rentrer en Ukraine et de venir en France au mois d'avril, sans parler un mot de français. Or, aujourd'hui, vous témoignez en français sur la scène du théâtre de Belleville.
Ouais.
Il vous fallait une autre langue, dites-vous, pour témoigner.
Exactement, exactement. Donc, quand la décision a été prise de ne pas rentrer en Ukraine, il y avait une autre question, qu'est-ce que je fais après ?
Où aller ?
Où aller ? Et à ce moment-là, j'étais en Estonie, mais on ne m'a pas livré le titre de séjour, parce que je suis arrivé du côté de la Russie. Et j'avais un peu le choix, comme tous les Ukrainiens, de choisir n'importe quel pays de l'Union européenne pour... C'est berger. Et j'ai choisi la France parce que, je sais pas, je connaissais les films Hiroshima, mon amour, que j'ai adoré. Et je me suis dit, si les Français ils font ça, ça veut dire que c'est un très bon pays. Ils font des vrais trucs.
Et donc merci à la Rennais de vous avoir fait venir en France.
Oui, et Marguerite Duras aussi.
Et Marguerite Duras.
Emmanuel Riva, enfin tout le monde.
Et donc aujourd'hui, vous êtes en France depuis 3 ans, au théâtre. On va revenir sur cette expérience et surtout sur ce spectacle. Mais en français dans le texte, je voudrais vous présenter un jeune artiste belge qui sort un album 4 titres, on dit je crois Extended Play. C'est RC en duo avec Anaïs Moi, Aquarelle.
Je sais pas quoi faire, j'ai mis de l'eau sur du bleu pour faire de l'aquarelle. Ce matin j'ai plein de gouttes sous mes yeux. Souris, je sais pas quoi faire. Et puis j'entends le silence dans ma chambre qui fait le plus de bruit. Je dis j'ai peur, j'espère que dans pas longtemps il y aura moins de bruit. J'ai vu le monde plus sombre qui ne l'était. Je vais attaquer mais j'ai perdu l'épée. Ok ok, faut qu'on avance. Mais je check où je vais poser mes pieds. Ok ok, est-ce que tu sens mes démons qui traumatisent? Tu veux que je redescende? Donc dis-moi ce que t'as à me dire.
C'était pas perdu d'avance. Au milieu de la fête, je pense à partir loin d'ici. Le flou du voile, les confettis tombés au ralenti. T'es bien entouré, mais en tournée, tu ressens le vide. C'est fou comme t'aimerais être aimé, mais quand tu l'es, tu fuis.
La tension grimpe dans mon esprit, viens on pète les plombs et puis on se calme. Laisse-moi solo sur un banc, dans le noir, laisse un blanc et puis on se capte. Je suis désolé si ça t'atteint, je change d'humeur tous les matins. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Oh, mais quel menteur, ce soir il rentre tellement tard. Oh, mais quel menteur, ce soir il rentre tellement tard. Je pleure pas quand je dois pleurer, mais faut pas croire que je m'en tape. Ma tête est pleine à craquer, mais faut pas croire que je m'en tape.
Inspire.
CRC sur les platines de la RFI. Alors, je ne sais pas si vous écoutez du rap, Victor Kirillov, mais en venant en France, j'ai l'impression en tout cas que vous avez découvert aussi la chanson française et Jacques Brel, qui était belge. Mais bon.
Oui, j'écoute beaucoup de la musique française et un peu de tout, la chanson, les rap, Jacques Brel, justement.
Et Jacques... Ça aide à apprendre la langue ?
Oui, oui. Quand on écoute, en fait, il faut s'entourer de la langue. Il faut s'entourer des gens qui parlent cette langue. Et moi, c'était un peu un cas particulier parce que moi, à en arriver en France, je voulais plus parler ma langue maternelle. J'en ai deux.
Le russe et l'ukrainien.
Russes, l'ukrainien.
Donc la première, vous la haïssez et la seconde, vous l'avez jamais aimée.
Oui, on peut dire comme ça. C'est vrai que moi, je viens de la région d'Ukraine où on parle plus russe, normalement. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas, vu la guerre et tout ça. Mais on parlait en tout cas plus russe dans ma famille. Enfin, avec mes amis, on parle tous russe. Et depuis que la guerre a commencé, il y a cette question linguistique qui se pose. Est-ce qu'il faut parler la langue de l'occupant? Est-ce qu'il faut s'associer à toute cette culture qui est belle Enfin, il n'y a rien à dire, mais quand même, c'est la culture russe, quoi. Et donc, tous les Ukrainiens sont bilingues, en ukrainien et en russe, mais il y en a certains qui préfèrent parler russe, il y en a qui préfèrent parler ukrainien. Et c'est toujours une grande discussion. Et moi, en arrivant en France, en étant réfugié, justement, je ne voulais plus parler les russes. Et l'ukrainien, vu mon parcours, je ne me sens pas très... légitime et à l'aise de représenter la culture ukrainienne tant qu'elle est aujourd'hui. Je ne me sens pas très légitime de faire ça, vu que j'ai tout fait pour être un peu banni dans ces pays. Et donc, le français, c'est devenu comme une langue refuge pour moi, où je peux être moi et de ne pas être jugé. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui me sauve quoi, dans tout ça.
Et donc Jacques Brel, que vous chantez sur scène.
Oui, Jacques Brel. J'interprète une chanson, Ne me quitte pas. Chanter, c'est un mot fort, mais je l'interprète.
Si je vous mets la musique, est-ce que vous pouvez dire le poème?
Oui.
Mais on tente.
Si vous voulez. Ne me quitte pas. Oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier les temps, tes malentendus, les temps perdus, savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Moi, j'aurais pu t'offrir des perles de pluie venues de mon pays. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas.
C'est une chanson totalement déchirante. Et vous y mettez une émotion... hors pair.
Oui, j'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson quand même très très significative dans la culture française. Mais mon axe que j'ai choisi, c'est de la chanter, de l'interpréter pas pour une personne qu'on aime, mais pour un pays qui était avec nous pendant toute notre vie et qui n'est plus là.
Alors dans votre spectacle, Victor Kirillov, maintenant je n'écris plus qu'en français, il y a l'émotion de vous entendre dire le poème de Jacques Brel, mais raconter ce parcours, cet exil. Mais il y a aussi l'admiration de vous entendre jouer en français. C'est que vous êtes très doué pour les langues, que vous avez eu une super prof. Comment vous avez fait pour apprendre cette langue que tout le monde dit atrocement difficile?
Ah bon? J'ai jamais fait des cours de français avant d'arriver en France. Et j'ai jamais... Bon, si, quand même, j'ai fait une semaine de cours de français à juste les premiers mois après mon arrivée en France. Mais je suis vite parti parce que j'ai senti que ça ne m'aide pas beaucoup. J'apprenais le français avec les manuels du français chez moi, les manuels pour les étrangers.
Tout seul?
Tout seul. Et ce qui m'a aidé le plus, je crois, que c'est quand je me suis fait accueillir au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, c'est de parler avec les élèves français. Très vite, j'allais contre ma peur de parler cette langue avec les natifs. J'allais contre moi, contre tout, mais j'ai vite dit à tout le monde, je ne veux plus parler anglais, je veux parler votre langue avec vous. Et donc, si vous... Si ça vous embête, je m'en fous.
Mais ça veut dire que faire du théâtre pour apprendre une langue, c'est efficace.
Ça m'a beaucoup aidé parce que apprendre les mots, les phrases, les façons de parler, c'est mon métier. Et donc, ça m'a servi.
Donc maintenant, je n'écris plus qu'en français, qui est le titre de vos spectacles. C'est une promesse. Et on pourrait dire aussi, maintenant, je ne parle plus qu'en français. Du moins ici. Du moins, tant que la situation est celle que l'on connaît.
Oui, on peut dire comme ça, oui. On peut dire comme ça. Mais même après la guerre, même, il faut voir comment on va se terminer, moi, déjà. Et je ne sais pas trop comment je vais être perçu en Ukraine après, vu mon parcours, vu tout ce que j'ai fait. Je n'ai fait pas des choses atroces, mais j'ai fait quand même quelque chose qui peut être considéré comme pro-russe ou contre-ukrainien, etc.
C'est-à-dire fuir, c'est-à-dire partir, c'est-à-dire fuir, ne pas aller faire la guerre.
Ouais, c'est plutôt ne pas faire la guerre, d'être resté là. Et déjà, partir en 2019 à Moscou, vu la Crimée et la guerre de 2014, ça suffit déjà.
Ce spectacle, en tout cas, est en français, du début à la fin, avec un mot que vous aimez particulièrement.
Inexplicable. Ça, c'est un beau mot. Quand on me demande de raconter mon histoire, je dis souvent, c'est inexplicable. Et pas que pour les autres, mais pour moi aussi. Parfois, je me dis, ça serait bien d'aller voir un psy, un bon psy. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Qu'est-ce que je voulais raconter? Et à quoi ça sert? Raconter. D'écrire, discuter, parler. Est-ce que ça sert à autre chose que de prononcer des mots ?
À quoi ça sert parler ? Dans votre cas, Victor Kirillov, c'est témoigner. C'était important pour vous de témoigner, de raconter justement cette histoire et la situation sur une scène de théâtre de ce que vit un Ukrainien, de ce qui se passe en Ukraine, parce que vous racontez aussi tout le contexte géopolitique de cette région.
Ouais. Pour moi, le théâtre, c'est la tribune très importante où on peut vraiment parler. C'est le seul endroit où on peut parler vraiment sérieusement de tout ce qui se passe dans ce monde. Où on peut vraiment se poser des questions, on peut vraiment discuter sans avoir peur ni craindre quoi que ce soit. Et pour moi, c'était tellement important de juste, pas besoin de jouer, juste raconter, partager, témoigner tout cette histoire qui se passe aujourd'hui et qui n'est pas que les histoires qu'on voit dans les nouvelles, sur Internet, etc. Juste une histoire d'un gars ordinaire comme moi.
Mais c'est aussi un spectacle, même s'il est en français, même s'il n'est plus dans votre langue maternelle, c'est un spectacle d'amour pour ce pays, vous l'avez dit, en parlant de Jacques Brel, et d'amour pour la vie, parce que la question, on ne va pas raconter la fin du spectacle, mais quand même c'est ce qui se dit, c'est-à-dire que la question de « est-ce que je suis patriote ou est-ce que je suis lâche ?» qui vous traverse pendant ces semaines et ces jours, pour finalement arriver en France. Aujourd'hui, cette question, elle se pose plus vraiment. Et vous dites, aujourd'hui, je suis vivant, 3 ans après. Est-ce que tout le reste est oublié ?
Est-ce qu'on peut oublier ça ? Est-ce qu'on peut oublier sa ville natale, son pays, sa langue maternelle ? Est-ce qu'on peut oublier sa famille ? Est-ce qu'on peut oublier tout ça ? crois qu'aujourd'hui, la question est... elle n'est plus dans la question de la culpabilité. En tout cas, après ce spectacle, c'est pour la première fois après ce spectacle, après l'avoir joué, que je me sens bien être vivant et de ne pas avoir culpabilité à, de ne pas être là-bas, de ne pas être dans ces pays en guerre. Et enfin, je serai ukrainien jusqu'à la fin de mes jours. Et je crois que l'important, c'est de vivre, c'est de transmettre, c'est de partager, c'est de surpasser ces questionnements difficiles. Et de ne plus avoir honte d'être vivant.
Victor Kirillov, on évoquait à l'instant ce mot de la langue française que vous aimez, inexplicable, parce qu'il est un peu mystérieux, parce qu'il est justement un peu inexplicable. Vous allez peut-être en apprendre d'autres avec Lucie Bouteloup. C'est chaque semaine un rendez-vous avec elle et c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez choisi votre expression aujourd'hui spécialement pour Victor ?
Disons que l'expression du jour a quelque chose à voir avec le fait qu'il soit comédien de théâtre et puis aussi peut-être parce qu'il est ukrainien. Mais l'expression peut s'appliquer à un certain nombre de personnes parce qu'en ce moment, il faut bien l'avouer, les sujets ne manquent pas pour être au 36e dessous.
Voilà l'expression.
Absolument. Alors je vous vois venir, vous allez me dire au-dessous de quoi ? Et ce 36e, c'est pas un peu beaucoup ? Eh bien, on en parle dans quelques instants avec Benjamin Roussel, lexicographe aux éditions du Robert. Mais avant Pascal, comme d'habitude...
Les enfants.
Être très bas, du coup, t'es pas à la hauteur.
Bah souvent, il y a plusieurs étages dans les immeubles, et il y a souvent 36. Et donc, on est au 36e sous-sol, c'est-à-dire que je me suis perdue.
Ça veut dire que je me sens rabaissée, c'est le 36e de la classe, c'était en dessous.
Je pense que ça veut dire ne rien comprendre, on sait vraiment pas comment il faut faire, parce que t'es très bas, et ça peut vouloir dire que tu ne comprends rien.
Moi, j'aurais dit, c'est peut-être un peu être déprimé. Bah, si t'as 36 dessous et que tu vas en mettre et qu'ils sont tous sale, t'as pas de machine à laver ou comme ça ou qu'elle est cassée, bah tu vas être déprimé.
La puce à l'oreille.
Alors, bonjour Benjamin Roussel. Qu'est-ce
bonjour
que vous
Lucie.
Pensez des propositions des enfants? Ils ont de l'imagination. Elle était bien, celle avec les dessous.
Oui, eux, ils ont de l'imagination. Bon, ils se sont un peu perdus dans les étages en cours de route. Mais voilà, il y en a un qui a eu tout bon quand il a parlé de la déprime, du fait d'être déprimé. Voilà, c'est ça.
Juste l'explication qui ne collait pas trop.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors, être au 36e dessous?
Donc, comme l'a dit le petit garçon, donc, c'est en effet être dans une très mauvaise situation, être, sinon psychologiquement, être très déprimé, dans l'accablement. Voilà,
être dans une mauvaise posture.
Dans une mauvaise posture, dans la misère. Soit on parle de la situation, comment dire, matérielle, soit du moral, en fait, être... avoir le moral au plus bas.
Alors, on comprend bien que quand on est en dessous, c'est beaucoup moins bien que quand on est au-dessus.
Oui.
Pourtant, de là où vient l'expression, il n'y a rien d'accablant à parcourir les sous-sols. Ça vient d'où, cette expression, exactement ?
Non, pas du tout, ce n'est pas accablant. Cette expression, elle vient du théâtre.
Mm-hmm.
Et donc, les dessous au théâtre, c'est donc sous la scène, c'est là où, en fait, la magie s'opère. C'est là où on manipule les décors, où les machinistes s'activent pour gérer toute la scénographie.
Il faut imaginer plusieurs planchers sous la scène.
Voilà, il faut vraiment s'imaginer que ça va assez, assez profond. Par exemple, à l'Opéra Bastille, c'est 25 mètres
sous la scène.
Et donc, à l'origine, on parlait de 3 étages. À l'Opéra Bastille, il y en a 6, il me semble. Donc, ça va assez loin.
Donc, cette expression « être au 36e dessous », elle vient du théâtre, mais au départ, il y avait une autre expression qui était...
Oui, comme il y avait 3 étages, vers la fin du 19e siècle, l'expression est apparu d'abord sous la forme être dans le troisième dessous. On ne parlait pas encore du 36e. Quand la pièce, oui, faisait un four, c'était un peu comme un refuge et c'était synonyme d'échec cuisant. C'est un peu comme toucher le fond, en fait.
Et puis, par extension, cette expression, elle a été utilisée pour toutes sortes d'échecs.
Oui, elle est sortie du théâtre et donc on a commencé à utiliser cette expression pour n'importe quel échec cuisant.
Alors, pourquoi ce chiffre 36 ?
Alors ça, le chiffre 36, on y a souvent recours pour symboliser l'extrême. Donc on le voit dans pas mal d'expressions en français, hein. Par exemple, tous les 36 du mois, voire 36 chandelles, il n'y a pas 36 solutions. Souvent, c'est un chiffre un peu qui
faire
revient comme ça.
Faire 36 choses à la fois, oui, c'est vrai. Voilà. C'est un chiffre assez récurrent.
Exactement. Donc c'est tout simplement pour cette raison qu'on a commencé à dire être au 36e dessous.
C'est un intensif, mais on ne sait pas ce qui symbolise particulièrement ce 36.
Non, il n'y a pas de signification particulière. C'est vraiment, ça symbolise l'extrême, l'improbable, l'impossibilité.
Parce qu'il y a 36 et puis il y a aussi 36 000.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Alors, on peut aussi dire qu'on est au bout du rouleau.
Les jeunes aujourd'hui diraient sans doute être en PLS, être dans le mal. Sinon,
on est au bout de sa life.
On est au bout de sa life, au bout de sa vie. Sinon, si on veut vraiment garder cette idée de profondeur, de toucher le fond, donc on peut dire qu'on est au fond du trou, qu'on n'est plus bactère, ou alors qu'on a le moral dans les chaussettes.
Alors les Néerlandais, eux, ils tombent dans un trou, mais un trou noir. Quand en Pologne, on tombe au fond, comme dans l'expression française d'ailleurs, tomber au fond du trou. Et au Portugal, on va au fond du puits. Tout un programme. Merci Benjamin Roussel. J'espère que vous n'êtes pas au 36e dessous, mais plutôt au 7e ciel. Vous pouvez retrouver cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site françaisfacile.rfi.fr, mais aussi sur le blog du Robert. Dis-moi Robert. À bientôt Benjamin, autour d'une nouvelle expression.
Merci Lucie.
Merci Benjamin, merci Lucie. Victor Kirillov, quand vous suivez la situation en Ukraine, est-ce que vous êtes au 36e dessous ou vous espérez une trêve, la paix?
On peut rien prévoir avec ces messieurs, les deux là.
Les deux?
Les messieurs à Washington, l'autre à Kremlin, on peut rien prévoir. On peut qu'espérer, comme tous les Européens et les Européens. Enfin, ça se voit que... pour moi, c'est une sorte du théâtre, mais du mauvais théâtre, quoi, qui se passe. Enfin, en tout cas, du côté américain et russe, c'est n'importe quoi.
Mais rentrer en Ukraine, pour vous, c'est de l'ordre du possible, du désir, ou vous êtes définitivement un acteur français ?
Oh. Je crois que c'est aux Français de dire que je suis un acteur français, c'est pas à moi de le dire. Et... je ne crois pas que je pourrais rentrer dans l'avenir prochain, comme je disais, même après la guerre. Faut voir comment elle va se terminer, déjà. Et l'autre question, est-ce qu'on m'acceptera dans mon pays après ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Merci Victor Kirillov. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Se joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 juin. Et c'est peut-être pas plein tous les soirs, mais quasiment. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve demain et d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur rfi.fr et sur l'application Pure Radio. À très vite.